Le silence retombe dans la petite cuisine à l'atmosphère confinée. Pock s'est allongé de tout son long sur la table entre deux assiettes. Johan a terminé le coin supérieur droit du puzzle et Émile est toujours affalé contre le dossier de sa chaise, le regard fixé sur elle. Il devine l'arbre de vie à travers son pull noir trop grand. Tout à l'heure encore, quand il faisait l'amour dans la chambre, il a passé ses doigts au-dessus en se demandant ce qu'il représentait. Maintenant, il sait. Il se redresse péniblement et se rapproche de la table. Il saisit quelques pièces de puzzle et il commence à les trier. Il commencera par le coin inférieur gauche. Ils font toujours comme cela. Pendant quelques minutes, aucun des deux ne bronche. Puis Émile demande. Et ensuite ? Johan s'interrompt pour piocher dans le paquet de papillotes. Le papier doré crisse entre ses doigts et elle enfourne le chocolat avec des gestes tranquilles dans sa bouche.
Ensuite, Tom est devenu un vrai petit garçon.
Alors, elle parle de l'automne qui tombe sur Saint-Suliac, des arbres qui perdent leurs feuilles dans la cour de l'école, du tapis roux qui envahit les pavés. Elle raconte le silence des André après cette scène dans le potager et la mort de Joseph. Il ne donne plus signe de vie pendant près de 6 mois. Se sent-il coupable d'avoir causé ce malaise? Johan ne le saura jamais. Léon n'a plus de contact avec eux pendant cette période. C'est une parenthèse heureuse. Johan abandonne son poste de gardienne pour s'occuper à temps plein de Tom. Joseph n'est plus et elle refuse de le confier à une autre femme pendant qu'elle part travailler. C'est une période heureuse. Elle initie Tom à la peinture sur toile avec les mains. Il passe des heures, les paumes dans la peinture fraîche, à remplir des surfaces vierges. Johan dépose ses empreintes avec soin, mais Tom crée des tourbillons, de larges traînées. Il n'utilise que la peinture bleue. Pendant la sieste de Tom, Johan s'allonge à côté de lui et elle observe son visage paisible gagné par le sommeil. Ses sourcils délicats, sa bouche en forme de cœur, ses lèvres douces et rebondies, ses joues légèrement roses. Elle enfouit son nez dans ses cheveux qui sentent le miel et un fin parfum de terre. Elle s'endort avec lui parfois. Elle lui cuisine des sablés, des compotes à la cannelle et des tartes aux poires. Ils prennent le goûter dans la véranda qui est à la fois la chambre de Tom et leur jardin d'hiver. Des fauteuils à bascule y ont été installés. Ils goûtent en regardant la nature et le potager qui se couvrent d'orange, de rouge, de jaune. Johan boit une infusion. Tom un chocolat chaud. Johan lit des histoires et chante des comptines. Tom est attentif. Il est toujours muet, mais ça ne les dérange pas, ni l'un ni l'autre. Le soir, Léon s'extasie devant leurs œuvres sur toile. Il dîne dans le salon où un feu de cheminée ronronne en permanence. C'est vide sans Joseph, mais ils prennent leur marque tous les trois. Le nouveau gardien d'école n'a pas eu envie de vivre dans la cour. Il a une grande maison en bordure de Saint-Suliac où il vit avec ses 4 enfants et sa femme. Alors la directrice a autorisé Johan et Léon à conserver la maisonnette en pierre en échange d'un tout petit loyer. C'est une période heureuse malgré la disparition de Joseph. Tom grandit et s'épanouit. Léon masque du mieux qu'il peut sa tristesse de ne pouvoir communiquer avec Tom et de ne pouvoir le serrer dans ses bras. Il semble s'y faire. En tout cas, il prend sur lui. Johan est heureuse. Tom grandit et devient un petit garçon casse-cou. C'est une chance que Johan soit à la maison pour veiller sur lui en permanence. Tom semble n'avoir aucune conscience du danger. Il court beaucoup, de façon désordonnée, et finit souvent sa course sur le sol, la tête la première. Johan devient experte des points de suture et des fils à couper, des genoux écorchés et des jolies bosses bombées sur le front. Tom saute du canapé à la table, de la table aux chaises, puis des chaises au canapé, de nouveau, malgré les avertissements de Johan. Un jour, il s'ouvre le menton, manquant de peu la table. Il semble n'évaluer ni les distances ni les hauteurs. Il n'a peur de rien. Pas même du feu dans la cheminée. Un soir, Johan le trouve les mains plaquées contre la vitre devant l'âtre. Les cloques éclatent, la chair est à vif, mais Tom ne hurle pas. Une larme solitaire s'échappe de son œil.
« Je n'ai tourné la tête qu'une seconde !»
confesse Johan au docteur Aumont, rouge de honte. Les André refont leur apparition au mois de février, alors qu'un vent glacial balaie Saint-Suliac. il se présente à la porte d'entrée de la maisonnette en pierre, emmitouflé dans des écharpes épaisses, bonnet fourré sur la tête, un bouquet de fleurs dans une main et une brioche dans l'autre. C'est M. André qui parle.
« On a pensé qu'un petit goûter vous ferait plaisir. »
Johan ne dit rien. Léon paraît heureux. Les André ont l'air sincèrement ravis de revoir leur petit-fils. Ils n'insistent pas quand Tom refuse de les embrasser. Ils ne font aucun commentaire quand il court se réfugier derrière la cuisinière en frappant du pied. Ils ne tiquent pas lorsqu'il constate qu'il est toujours muet et qu'il préfère se percher sur le rebord de la fenêtre et observer le ciel plutôt que de s'intéresser aux adultes dans la pièce. Pendant quelques mois, le petit homme connaît un répit heureux. Plus de remarques, plus de commentaires, plus de jugements. Léandré se contente de le regarder marcher, courir, rester figé, le regard au ciel. Puis le naturel revient. La principale cible de critique de Madame André devient la chevelure de Tom.
« Il faudra te faire couper les cheveux, mon garçon. Tu ressembles à une petite fille. »
Johan prend sur elle pour rester impassible chaque fois que cette remarque revient. Tom a de jolies boucles dorées qui lui tombent sur les épaules. Elle se refuse à l'emmener chez le coiffeur. Tom paniquerait. Personne d'autre qu'elle ne peut le toucher. Et puis, elle l'aime bien, elle, avec ses cheveux longs. Il ne ressemble pas à une fille. Il a l'air d'un petit garçon espiègle et plein de charme. Elle a bien essayé de l'approcher un jour avec des ciseaux, mais Tom a été clair. Il a renversé sa chaise et s'est enfui dans sa chambre. Il ne veut pas qu'on touche à ses beaux cheveux.
Vous savez, dans certaines cultures, en Mongolie par exemple, on attend plusieurs années avant de couper les cheveux des enfants,
indique-t-elle un jour à Madame André, insistante. Ce qui lui vaut un gloussement moqueur.
Si notre petit-fils était né en Mongolie, ça se saurait.
C'est ce jour-là que Johan surprend une conversation entre Léandré et Léon sur le seuil de la porte. Il chuchote avec anxiété et Johan tend l'oreille depuis la cuisine.
Refuse toujours de le faire consulter ?
Demande la voix de Madame André. Elle n'entend pas ce que Léon répond. La voix grave de Monsieur André poursuit.
Autisme avéré, muet comme une carpe alors que son ouïe est bonne, très agité. Lu dans un magazine de santé l'autre jour.
Le silence retombe. Léon bredouille quelque chose comme
« Et même si on nous confirme qu'il est autiste, cela nous mènera à quoi ?»
La voix pleine de mépris de Madame André éclate avec une joie malsaine.
« Ah rien, tu as raison. C'était avant qu'il fallait y penser.
Pardon ?»«
Tu t'attendais à quoi en donnant comme mère à ton enfant la fille d'un simplet et d'une putain ?»
La douleur est fulgurante, clouant Johan au sol devant l'évier de la cuisine. Mais la douleur la plus tranchante vient après, dans le silence accablant de Léon. Dans ce long silence qui envahit toute la maisonnette comme une onde glaciale. Émile réalise qu'il est ému, beaucoup plus qu'il ne devrait l'être. Il garde la tête penchée sur le puzzle pour dissimuler ses yeux étonnamment humides à Johan. Elle a abandonné le coin supérieur droit du puzzle. Elle est assise bien droite sur sa chaise, les mains à plat sur la table, le regard fixé loin devant elle. C'est comme si elle n'était pas vraiment revenue ici. Il hésite quelques secondes. Il a peur de l'éveiller brutalement s'il pose une main sur la sienne. Pourtant, il le fait et elle ne sursaute pas. Elle recommence à parler lentement. Elle avait besoin de cela pour pouvoir poursuivre son récit. À partir de cet épisode, les choses changent pour Johan. Elle commence à haïr Léon. Ça n'est pas seulement le lac, la noyade de Tom. C'est sa lâcheté, ses années de lâcheté écœurante. Le printemps arrive doucement à Saint-Suliac et les choses se transforment. La maisonnette en pierre est comme scindée en deux par un voile invisible. Il y a Johan et Tom d'un côté, Léon de l'autre. Quelque chose s'est brisé. Johan ne voit plus Léon, elle ne l'entend plus, ou seulement à travers le voile, comme s'ils appartenaient désormais à deux univers bien distincts qui cohabitaient pourtant. Elle dort toujours auprès de lui. Elle s'efforce de participer aux conversations poliment. Elle se plie à son devoir conjugal de temps à autre, avec de plus en plus de difficultés. Elle ne montre rien. Pourtant, dans son univers désormais, il n'y a plus que Tom. Plus rien d'autre que Tom. Elle vit pour lui. Elle veille la nuit pour lui. Elle prépare des pique-niques pour l'emmener la journée à la plage. Ils observent la mer tous les deux. Elle se nourrit du bonheur dans les yeux de son fils. Elle peut passer des heures à regarder le soleil déposer des filaments dorés dans ses jolis cheveux blonds. Durant l'été, il se baigne. Elle lui accroche une grosse bouée autour du ventre et elle ne le lâche pas d'une semelle. Sur la plage, pendant qu'il se sèche, ils inventent un langage qu'ils sont les seuls à comprendre. Un langage des yeux et des mains. Ils se comprennent tous les deux. Johan a appris à lire dans ses prunelles noisettes, à interpréter les mouvements frénétiques de ses mains. Ils se promènent sur les falaises, mais ils finissent tôt ou tard par s'arrêter, le regard rivé au ciel. Ils dorment à la belle étoile, enroulés dans des duvets pour profiter de la voûte céleste. En septembre, la directrice de l'école, qui a eu vent des difficultés de Tom, propose à Johan de le mêler aux autres enfants de son âge. Pendant les récréations. Johan accepte, mais elle reste non loin pour garder un œil sur lui. Tom reste muet et solitaire. Les autres enfants, tous ceux qui essaient de l'approcher, repartent dépités. Il y a pourtant un groupe que Tom daigne approcher, ceux qui réalisent de la peinture sous le préau. C'est ainsi que naît la légende de Tom Blue, la légende du petit garçon muet qui observait le ciel et la mer et qui peignait l'immensité. Elle s'interrompt à peine une seconde dans son récit, juste le temps d'esquisser un sourire ému. Ensuite, elle repart à Saint-Suliac. C'est une froide journée d'hiver et Johanna a attrapé la grippe. Elle est alitée depuis 3 jours avec une fièvre démente. Léon s'occupe de Tom, non sans difficulté. Ils n'ont pas encore réussi à se comprendre tous les deux. Léon ne comprend pas le langage des mains et des yeux. Il s'obstine à vouloir toucher Tom. Il fait tout de travers. Mais Johanna n'a pas le choix. Elle est à bout de force au fond de son lit. Elle est réveillée d'un sommeil lourd et enfiévré par du bruit et de l'agitation dans la cuisine. Elle met un certain temps à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une hallucination. Elle se redresse péniblement en essayant de reconnaître les voix, quand un cri retentit.
« Mais tiens-lui la tête, chérie !»
Johan se lève d'un bond. C'est la voix de Madame André.
« Qu'est-ce qu'ils font à mon petit homme ?»
Elle pressent le pire. Elle a raison. Dans le salon, son propre salon, 3 adultes entourent Tom. Monsieur André qui le maintient en place, lui en serrant les épaules. Léon qui tient sa tête immobile, car elle ballotte dans tous les sens, essayant de s'échapper. Et Madame André, une paire de ciseaux dans la main. Johan se cramponne au mur pour ne pas s'évanouir. La fièvre et la fatigue sont trop fortes.
Qu'est-ce que vous faites ?
Elle aurait aimé gronder d'une voix forte, mais la sienne est faible, épuisée. Monsieur et Madame André se tournent vers elle, mais c'est Léon qui répond, incertain.
« On voulait lui couper les cheveux. »
Il sent qu'il fait une bêtise, mais sans doute n'a-t-il pas pu contrer ses parents. Johan, elle, n'a Dieu que pour son petit homme, les yeux écarquillés de terreur. Elle traverse la pièce à grandes enjambées. Elle ne se contrôle plus.
« Lâchez-le !»
Les ciseaux de Madame André se referment avec un bruit sec. Clic. Si Tom avait pu, il aurait hurlé pour se défendre. Mais ses cris sont muets. Personne ne les entend. Personne sauf Johan. Et ils lui paraissent assourdissants, effroyables.
Lâchez-le !
Répète-t-elle. Clic. Une deuxième mèche. Johan est devant eux. Elle tend sa main vers Tom, répète plus durement.
Arrêtez !
La voix de Madame André réplique, sifflante.
Il ressemble à un sauvage. Une coupe ne lui fera pas de mal.
Elle lève ses ciseaux, s'apprête à couper une autre mèche. Des larmes ont coulé sur les joues de Tom. Ses mains accrochent son pantalon, déchirent le tissu tellement il a peur, tellement il est impuissant. Johan essaie de repousser Monsieur André, Madame André et Léon.
Arrêtez maintenant !
Elle aussi a des larmes sur les joues. Mais Monsieur André la repousse doucement.
Soyez raisonnable, Johan. Retournez-vous coucher, vous êtes blanche. Laissez-nous nous occuper de Tom. Ce n'est qu'une petite coupe de cheveux.
Si Joseph avait été là, il n'aurait jamais osé. Si Joseph avait été là, il les aurait chassés à coups de balai. Il aurait grondé de sa grosse voix. Mais Johan est seule. Elle tient à peine debout. Clic, une nouvelle mèche. Un cri suraigu retentit, figeant soudainement le temps dans la pièce. Le premier cri de Tom, un cri de terreur. Les trois tortionnaires s'interrompent interdits. Johan sent une rage l'envahir, une rage comme elle n'en a jamais ressentie. Ils l'ont poussée à bout, elle le sait. Seule une détresse toute puissante aurait pu arracher un son à Tom. Elle entend à peine le hoquet stupéfait de Madame André.
« Oh, il parle !»
Elle se rue sur elle, elle lui arrache les ciseaux des mains, puis elle hurle à plein poumon.
« Sortez !»
Elle tient les ciseaux à bout de bras, menaçante. Elle tremble, elle est livide. Elle pourrait les tuer, elle pourrait les planter, tous, un par un.
« Johan !»
crie Monsieur André. Tom court se réfugier derrière elle. Aucun des André n'ose bouger. Ils la regardent tous, inquiets et effrayés.
« Sortez tout de suite de ma maison! Je ne veux plus vous voir l'approcher! Plus jamais !»
Léon tente d'ouvrir la bouche, mais Johan avance ses ciseaux avec un air menaçant.
« Toi aussi! Sors! Je ne veux plus te voir dans ma maison !»
Monsieur André intervient avec une voix calme qui se veut rassurante.
Johan, vous avez de la fièvre. Vous ne savez plus ce que vous faites.
Sa voix claque comme un fouet.
Partez !
Nouvelle tentative de Léon cette fois.
Jo, ça n'était qu'une coupe de cheveux.
Elle répète plus calmement.
Partez !
Pendant quelques secondes, plus personne ne bouge, plus personne ne parle. Le temps s'étire douloureusement. Puis Léon se racle la gorge et murmure, la voix tremblante.
On devrait écouter Johan.
Elle ne les regarde pas quitter la maison. Elle s'agenouille auprès de Tom, qu'elle serre dans ses bras, à l'en étouffer.
Excuse-moi, mon petit Tom, excuse-moi. Tu n'aurais pas dû naître dans un monde aussi cruel.
Léon ne regagne le domicile conjugal qu'en mai, le visage creusé, les tempes dégarnies. Il a fait une dépression nerveuse. Il est retourné vivre chez ses parents en attendant que Johan puisse lui pardonner. En regagnant la maisonnette en pierre, il découvre que Johan et Tom ne vivent pas seuls ici. Un chaton blanc dort ici chaque nuit dans le lit de Tom et passe ses journées dans les jambes de Johan.
« Vous avez cherché à me remplacer ?»
demande-t-il à Johan en essayant de plaisanter. Elle ne répond pas. Elle a accepté qu'il revienne, mais elle n'a jamais dit qu'elle lui pardonnait. Il aurait fallu du temps pour cela. Or, ils ne l'ont pas eu. 2 mois plus tard, elle confiait le petit homme à Léon, le temps qu'elle ferme les grilles de l'école. Elle les regardait partir à vélo, avec le panier rempli de sandwichs. Elle leur disait
« J'arrive tout de suite, commencez à installer la couverture !»
Léon lui adressait un signe de la main. Tom se mettait à pédaler à toute vitesse. C'était la dernière fois qu'elle voyait son fils vivant. Le silence revient dans la petite cuisine. Ils pleurent tous les deux en silence. Les larmes s'écrasent sur les petites pièces du puzzle. Johan pleure et Émile pleure aussi car il perçoit toute sa douleur, son infinie souffrance. Elle vient de la déposer en lui pour qu'il la partage, pour qu'elle ne soit plus seule à souffrir. Et il accepte ce cadeau. Il l'accepte sans retenue. Alors il pleure avec elle jusqu'à l'aube, dans la petite cuisine de l'annexe, où s'éteignent une à une chacune des petites bougies tremblotantes, comme autant d'étoiles dans le ciel. Souffrir, c'est donner à quelque chose une attention suprême. Paul Valéry, Monsieur Teste.